Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
On aura beaucoup et longtemps reproché à Sergio Leone, et à travers lui à l'industrie cinématographique italienne, d'avoir perverti et même assassiné le western. Ce à quoi Leone répondait. On a malheureusement fait 500 films après le succès de Pour une poignée de dollars, mais ce n'est pas ma faute, ce n'est pas mon problème. S'il y a quelqu'un qui a tué le western, c'est la télévision. Et surtout la télévision américaine, parce que quand j'ai commencé en 1964, le cinéma western américain était mort, complètement mort. On ne faisait plus de western à cause de la télévision américaine, pas à cause du cinéma italien. Mais qu'a donc fait du western Sergio Leone? Pas si simple de répondre à cette question. A-t-il célébré, déconstruit, reconstruit, parodié, renouvelé ou ressuscité le genre, lui l'amoureux éperdu du cinéma de Ford, ou a-t-il simplement fait tout autre chose qui n'appartenait déjà plus à aucun genre? Telles étaient au fond les questions que posait Sergio Leone, C'era una volta il western, à un mardi du cinéma de 1993 de Francesca Isidori, entourée de Claude Aziza, Mario Serenelli, Thierry Jousse, Nicolas Saada et Marc Ceruzuelo.
Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 dollars? Oui. Mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera.
Mardi du cinéma, Sergio Leone.
Oh, j'allais oublier. Il m'a donné 1000 dollars. Et sais-tu pourquoi? Pour que je te tue. Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Tu le sais, n'est-ce pas?
Non! Je ne tiens pas! Non!
Sergio Leone, c'era una volta l'western. Les hommes qui se livrent dans l'arène le dernier combat obéissent à une étrange chorégraphie qui ressemble à une danse des morts, à une cérémonie des ombres. Le rythme est lent, les gestes hiératiques, les cadrages précieux. La caméra fixe les visages, elle les explore comme des paysages. Fantômes picaresques dans toute l'épaisseur du songe, venus réclamer leur dû, ou dernier survivant de la fable de l'Ouest, silhouette spectrale que l'effacement menace. Cow-boy de plomb ou marionnette fragile, qu'un enfant qui se prend pour le destin fait basculer de la vie à la mort et sans cesse renaître. Il était une fois un homme qui rêvait d'Amérique comme d'une terre suspendue par enchantement entre le cinéma et le mythe. Son aventure, faite de duels et de dollars, d'amitié trahie et de vengeance, de dynamite et de silence, de nostalgie et de solitude, de mondes anciens et nouveaux qui s'affrontent, avait commencé à Cinecittà, aux côtés de Mervyn Leroy, de Robert Wise, de William Wyler. C'était l'époque de Quo Vadis, d'Hélène de Troyes, de Ben Hur. C'était l'époque où la statue de la liberté s'appelait le colosse de Rhodes.
Le colosse de rock quand on le regarde.
Claude Aziza.
C'est un péplum, mais c'est un péplum complètement détourné. C'est ça qui est amusant. À une époque où les péplums sont orientés autour de la force physique, par exemple, où on chante les aventures d'Hercule, avec des athlètes comme Steve Reeves ou Rick Park, le colosse de Rhodes n'est pas un homme. C'est une statue. Cette statue gigantesque qui indiquait l'entrée du port de Rhodes. Toute l'intrigue est vue complètement à l'envers, avec une série de personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les péplums. C'est comme si Sergio Leone s'amusait avec un genre qu'on est quand même au milieu de son deuxième âge d'or. Hein. Ça commence en 57, le péplum, ça se termine vers 64 à peu près, et on est en 60. Et il indique très nettement qu'il a envie de faire autre chose. Parce que finalement, en 64, on a tellement tourné de péplum en l'espace de 7 ans, on en arrive à tourner 30 ou 40 films par an, que le public est lassé. Et une anecdote qu'on raconte, est-elle historique, je ne sais pas, mais elle est en tout cas caractéristique, c'est qu'on est en train de tourner un ultime péplum qui s'appelle Sanson ou Mastis, je ne sais plus, chez les Incas, et qu'on téléphone au metteur en scène, on lui dit « c'est fini, qu'à cela ne tienne, on va faire un western ». Donc Sanson s'habille, il met un gilet, et les Incas, c'est les Indiens, et on transforme ce péplum en western. Tout simplement, et on remplace les sabres par des pistolets. Ce qui prouve que du péplum au western, italien bien entendu, la différence, elle est dans un premier temps complètement nulle, c'est-à-dire que c'est du cinéma populaire, et finalement, quand on regarde un péplum, prenez par exemple Romulus et Rémus, qui est à peu près tourné à cette période, dans les années 60, de Corbucci, c'est fait comme un western.
Pour moi, le western, je l'ai dit beaucoup de fois, le plus grand écrivain western, c'est Homero. L'Odyssée, c'est le plus grand western qu'on peut faire jamais dans la vie, parce que il y a tous les archétypes des cowboys, Achille, Ayache, Hector, Ulysse et tout ça. Ils sont vraiment des archétypes.
Tous les metteurs en scène italiens trouvent chez Homère et dans la mythologie des scénarios de western qui ne peuvent pas appeler western, qu'ils appellent péplum et qu'ils tournent comme des westerns. Donc la filiation, elle est très claire. Mais Leone, qui était un homme cultivé et intelligent, ne pouvait pas ne pas savoir que l'Énéide, c'est d'une certaine façon la conquête de l'Ouest, d'une part, et que cette marche vers l'Ouest, c'est aussi la marche des pionniers de l'Ouest américain, qui eux sont des hommes de l'Antiquité, mais des hommes de l'Antiquité biblique qui font ça, c'est la Terre promise, si vous voulez. Et c'est pour ça aussi que quand il tourne Sodome et Gomorre, il y a aussi quelque chose qui n'est pas loin non plus, d'une façon ou d'une autre, de l'univers du western, malgré les apparences. Donc pour Sergio Leone, l'Antiquité, c'est effectivement un réservoir d'histoire, mais c'est un réservoir d'histoire qu'il faut traiter à la façon contemporaine, à la façon de l'épopée contemporaine et du mythe contemporain. Et pour Sergio Leone, le mythe contemporain, c'est la conquête de l'Ouest. On a beaucoup parlé de la trilogie des dollars, et notamment du premier, Pour une poignée de dollars. Alors, Pour une poignée de dollars, c'est moins une révolution dans le western italien. Il faudrait dire quand même que le western italien existe avant Pour une poignée de dollars, avec des œuvres remarquables aussi. Donc Sergio Leone n'est pas le premier. Simplement, il est premier à avoir adapté, détourné des genres littéraires pour un produit, si j'ose dire, qui est complètement nouveau. Bien entendu, Pour une poignée de dollars, il faut savoir que c'est tiré d'une pièce de Goldoni, Harlequin, serviteur de 2 mètres, qu'il y a un remake d'un film de Kurosawa, Yojimbo, et qu'il y a des ingrédients du péplum, Il y a un acteur américain, bien sûr, et que tout ça, la mayonnaise prend, tout ça fait quelque chose, qui donne pour une poignée de dollars, avec, bon, la musique, Ennio Morricone, etc., la chose est très bien connue maintenant, mais qu'au point de départ, il y a une espèce de distanciation, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Colosse de Rhodes.
Je me rappelle,
Mario Serenellini,
quand j'avais vu les premiers films de Sergio Leone, et pour quelques dollars de plus, la trilogie, disons, de son western, et je me surprenais pour le comportement très sceptique de la critique italienne. Et on reprochait surtout à Sergio Leone de gâcher le western classique américain. On faisait toujours des comparaisons avec ce cinéma-là, avec ses rythmes, avec ses thèmes, avec ses personnages, et on disait voilà, Sergio Leone gâche tout, fait quelque chose de très 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 abominable.
Du sabotage.
Du sabotage comme ça. Il se prend pour un réalisateur de western alors qu'il ne l'est pas.
Mais je ne pense pas que Sergio Leone ait fait mourir le western pour plusieurs raisons. D'une part parce que il y a encore des westerns après Sergio Leone. La preuve, film de Clint Eastwood, le dernier impitoyable, et la preuve que Leone n'a pas tué le western.
Thierry Jousse.
D'autre part, je ne pense pas que son attitude esthétique ait été de vouloir tuer le western. Bien au contraire, non seulement c'est un admirateur de John Ford, mais je crois qu'il a fait ses films parce que John Ford avait fait du cinéma. Il est certain que ce rapport d'admiration entre Leone et Ford implique que Leone ne veut pas faire œuvre de destructeur. Je ne crois pas du tout. Non, moi je pense qu'il se situe à un moment où les genres et où Hollywood s'essoufflent, sinon disparaît, en tout cas mu. Enfin, il y a une mutation qu'on connaît, sur laquelle c'est pas inutile de revenir en détail. À la fin des années 50, Leone arrive à ce moment-là dans une situation où les genres se déplacent effectivement à ce moment-là vers l'Europe. C'est vrai qu'Hollywood est en train de se déplacer vers Cinecittà aussi, avec le péplum. On voit ça dans un film de Minelli, par exemple, qui s'appelle 15 jours ailleurs, et qui montre en 62 comment Hollywood se déplace vers Cinecittà. Bon, je pense que simplement Leone cherche à donner une, au contraire, non seulement il ne cherche pas à détruire le western, il cherche à le continuer. C'est-à-dire que c'est exactement, à mon avis, la même chose que Godard quand Godard fait À bout de souffle. C'est-à-dire que quand Godard fait À bout de souffle, on a dit que c'était une œuvre de rupture par rapport à ce qui s'était passé avant. Mais au fond, c'est aussi, et peut-être d'abord, un film qui cherche à faire continuer le genre sous d'autres formes. Et donc, à mon avis, moi, ce que je vois surtout chez Leone, c'est qu'au fond, il cherche à donner de nouveaux paramètres à un genre qui, effectivement, est en phase d'essoufflement. Et d'autre part, je crois aussi que c'est un moment du cinéma où Hollywood, ou le cinéma américain, en tout cas, ne peut plus vivre seul, et que c'est le moment où l'Europe, qui est effectivement un pays de, enfin un continent, et c'est vrai surtout pour les Français et les Italiens, un continent de cinéphiles, c'est l'Europe rêve la recomposition du cinéma américain à sa façon. C'est ce que fait Leone, grosso modo.
Moi, le désert, ça me donne soif. Ça brûle, hein. On dit que sur la peau des blancs, le soleil, ça fait mal. Tu dois te sentir tout léger, blondin.
Où allons-nous ?
Nous ? Tu veux dire où moi je vais, oui. Tu le vois, ce beau sable fin ? Eh bien, ça, c'est le désert. Une fournaise longue de 250 km que même les soldats en guerre ne traversent pas. De ce côté s'enfuient les confédérés, et de là arrivent les nordistes. Mais ici, jamais personne ne vient. Il n'y a que toi et moi. C'est bien comme pour
promenade, tu trouves pas? Tu te souviens de ce que tu m'as dit une fois? Mais, tout court, si tu économises ton souffle, tu trouveras toujours moyen de t'en tirer. Et si par manque de chance, il t'arrivait de crever, tu crèverais très lentement, à tout petit feu. Après toi.
Je crois quand même, et c'est là où il faut faire intervenir le terme de maniérisme pour comprendre la démarche de Léon, je crois quand même qu'on ne peut pas seulement voir Léon comme quelqu'un qui reprendrait le western en le pervertissant d'une certaine façon. Ça va plus loin. C'est-à-dire que, bon, si on fait cette comparaison terme à terme avec les peintres maniéristes italiens donc qui viennent après Raphaël, Michel-Ange, Léonard, donc dans la première moitié du XVIe siècle, donc on peut penser à Pontormo, on peut penser au Rosso, on peut penser au Parmesan, par exemple, bon, qui sont sans doute les trois grands peintres maniéristes italiens. De la même manière que ces peintres n'ont pas été vus très longtemps, n'ont été vus longtemps que comme des gens qui pervertissaient le code établi, on a longtemps vu Léon comme ça. Et à mon avis, Léon, comme ces peintres maniéristes, en fait, a créé une forme propre. Et on s'en aperçoit quand on voit aujourd'hui des films comme Il était une fois dans l'Ouest, ou a fortiori Il était une fois en Amérique. C'est-à-dire que la façon dont ils travaillent, bon, alors les très gros plans, par exemple, la façon dont ils travaillent l'étirement du temps absolu, la façon dont ils travaillent un espace totalement désertifié, c'est déjà vrai déjà dans Il était une fois dans Le Bon, la Brute et le Truand, et les clichés qui en ont suivi, c'est-à-dire que Léon a aussi engendré des clichés, mais à la base c'est des partis pris formels tout à fait spécifiques et très forts. Je pense que ces partis pris au fond deviennent tout à fait autonomes et ne renvoient plus du tout à leur modèle antérieur, c'est-à-dire que au fond l'imitation où on a accusé beaucoup Léon de parodie ou de justement la version du genre. Mais en fait, cette dimension-là s'efface peu à peu vers un travail formel spécifique et très impressionnant, qui est plutôt à voir avec ce que fait par exemple Antonioni ou Visconti à la même époque. C'est-à-dire que c'est là où Léon, d'une certaine manière, sort un peu du cadre comme ça, un peu restreint dans lequel on l'a trop souvent mis.
Est-ce que les westerns de Sergio Leone sont des véritables westerns? Et ma réponse est non, surtout pas seulement. C'est-à-dire, il mêle dans ses westerns beaucoup de genres. Il avait appris son métier au temps du néoréalisme.
Il avait été assistant de De Sica dans Voleur de bicyclette.
Il avait bien connu Visconti. Donc, en effet, quand il parle de ses modèles, il parle souvent de Visconti. Il y a, par exemple, des éléments qu'on peut reconnaître qui sont, par exemple, une méthode de travail. Il rappelait qu'au temps du tournage de Le Bon, la Brute, les Truands, il avait fait amener du sable de la Mountain Valley. Et cette couleur très très précise de cette région-là, dans les studios de Cinecittà, où l'on tournait les intérieurs. Et il disait que à ce moment-là, les acteurs se sentaient plus à l'aise. Et il disait, à ce moment-là, Visconti ne se trompait pas quand il voulait des fleurs vraies et pas des fleurs en plastique, quand il voulait des vraies chandelles pour le guépard et pas des chandelles fausses et tout ça. Et il y a, par exemple, ce goût du théâtre chez Leone, qui renvoie bien sûr à la tradition qui a son maître en Visconti, Et par exemple, dans le film « Il était une fois la révolution » Giulia Testa, il y a une sorte de théâtralisation du désert. Quand il y a les deux personnages qui sont dans une sierra, et là, ils sont sur deux fauteuils en velours rouge. Et donc, c'est un peu comme une chambre riche à l'extérieur, si l'on veut. Ou encore, il y a une séquence, je ne me rappelle plus de quel western, où il y a un personnage avec un petit parapluie violet qui marche. Donc, ça renvoie beaucoup à ces silhouettes un peu viscontiennes, si l'on peut dire.
Sergio Leone, c'est un véritable cinéaste secondaire.
Marc
Serrazuelo. Pas au sens péjoratif du terme, quoique justement, lui, il y a certains critiques qui ont pu... Il y a eu toute une tradition critique anti-Leone qui a existé et qui existe encore. Il suffit de lire le pourtant remarquable dictionnaire des films de Jacques Lourcel, où Leone est expédié en quelques lignes réellement vengeresses. Il l'accuse d'avoir précipité les salles de quartier, de la splendeur de la série B au film porno et au film karaté, d'être le maillon intermédiaire de la décadence du cinéma. Et de la part de quelqu'un qui est un grand cinéphile, un grand fondateur de la revue des MacMahoniens, Présence du cinéma, qui est un amoureux du cinéma de genre, ne pas voir à quel point, au contraire, Leone est quelqu'un qui est le grand continuateur. Comme disait Godard, il a fait la même chose autrement. Et grand continuateur donc du cinéma classique, ça c'est une chose intéressante. Donc il y a cette idée que le cinéma est déjà là, existe, mais ça c'est pas du tout la même approche qu'un Godard qui admire pourtant le fortement même le cinéma de Leone. C'est en prenant le cinéma pour ce qu'il est. Dans tous les possibles du cinéma, le spectacle, donc qui commence en faisant...
Qui était très important pour lui.
Ah, énormément, il est très attaché à la tradition d'abord italienne, que ce soit du comment on dit, le théâtre des poupées...
théâtre des poupées, oui.
Ouais,
des marionnettes,
que ce soit la scène italienne, la commedia dell'arte, et on le sent dans les jeux, dans la façon dont, surtout les personnages picaresques comme Rothsteiger, comme d'autres, la façon dont tout cela est joué de manière absolument théâtrale à l'intérieur d'un discours qui, lui, est radicalement cinématographique, ça, c'est quelque chose, effectivement, de très important.
Hey, toi, t'as pas compris que les promeneurs, on les a pas à la bonne. Où est ton mulet? En fuite, plus malin que toi, le mulet.
Tiens, oui, à propos, je voulais vous en parler. Imaginez-vous qu'il a pris la mouche.
Qui?
Eh ben, le mulet. C'est drôle, mais il est un peu susceptible. Votre accueil l'a un peu énervé. Je lui ai pourtant dit qu'ici, c'était la coutume.
Hé! Hey, tu nous prends pour des bourriques?
Non. Non, je me suis douté que vous plaisantiez, mais le mulet est délicat et il s'est offensé. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il exige des excuses. Ah, vous avez tort de rire. Car mon mulet, lui, n'apprécie pas tellement. Tel que je le connais, il risque de croire que c'est lui qu'on se moque. Si vous pensez lui faire quelques excuses, vous en tirerez seulement avec quelques regrets dans la figure.
Ces cowboys américains sont un peu des poupies siciliens, si l'on veut. Donc, son western, qui, bien sûr, est nourri par les grands westerns classiques américains, marche, je dirais, sur un fil qui a, d'un côté, l'opéra, si l'on veut, le théâtre, et si l'on veut vraiment, même l'opéra, le mélodrame, un peu la Visconti, et de l'autre côté, l'opéra des poupies.
Je suis Esteban Rodos, mon frère m'envoie... Il est indiscret de vous demander ce que vous faites.
Je déménage.
Vraiment, on ne vous a pas dit que nos employés habitent tous chez nous?
Eh bien, justement, je trouve qu'il y a trop de monde ici. Moi, je n'aime pas le tapage. Si vous avez besoin de quelque chose, sifflez-moi, je ne bougerai pas de la taverne.
Je crois que c'est Sergio Leone lui-même qui disait Clint Eastwood, dans, pour une poignée de dollars, avait deux expressions, oui. Avec le chapeau et sans le chapeau.
Oui, c'est une phrase célèbre. Je ne sais pas même si jamais Sergio Leone aurait pu dire ça. Tout de même, il a été complètement démenti avec le dernier film de Clint Eastwood, Impitoyable, où il montre enfin qu'il est un grand metteur en scène.
Je ne crois pas qu'il le disait méchamment. Mais Clint Eastwood, dans son premier film, est aussi une sorte de personnage un peu immobile, un peu...
Ah oui, mais c'est ce que Sergio Leone voulait de ses acteurs. Il n'est pas par hasard qu'il choisit ou des acteurs qui sont déjà un peu des archétypes, on dit archétypes, et tels que Henry Fonda par exemple, et où il en fait des archétypes. Et Henry Fonda, et il racontait souvent que quand il avait cherché pour, il était une fois dans l'Ouest, et Henry Fonda était venu en Italie, habillé déjà un peu en western, avec des lunettes étranges, une chemise comme ça. Et peu à la fois, Sergio Leone l'a dépouillé. Et il a dit, Henry Fonda a compris ce que je voulais de lui quand il a vu la première séquence où je l'ai inséré, où l'on le voyait de dos. C'est-à-dire... Cet acteur est typique américain, qui est très typique pour le public italien, qu'on reconnaît déjà de dos, et où il y a une étrangeté dans le caractère, c'est-à-dire il y a ses yeux très doux, de ciel, comme ça, alors qu'il devait jouer le rôle d'un méchant. Alors, c'est ça que Leone voulait arriver à faire.
Contre-emploi, complètement. Ouais. Contre-emploi, ouais. Il a utilisé Fonda.
Donc, voilà, c'est un peu la recherche, et, ou plutôt le travail sur un stéréotype, sur un archétype. Et, par exemple, il a fait vraiment des poupées, des marionnettes avec Lee Van Cleef ou avec Clint Eastwood, qui sont vraiment deux silhouettes très précises qu'on reconnaît tout de suite. Vraiment, c'est l'expression avec le chapeau et sans chapeau. Et même les visages, à un moment donné, puisqu'il y a toute cette recherche sur le visage, sur le particulier, sur le détail, le visage devient très rapidement une icône chez lui.
Frank sent us. Did you bring a horse for me?
Well, looks like we're shy of one horse.
You brought too many.
Thank you.
Ce qui est frappant aussi quand on voit Il était une fois dans l'Ouest, c'est qu'on a vraiment l'impression de débarquer sur une autre planète. C'est-à-dire que c'est presque comme c'est un film qui est contemporain de 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick, et c'est la même chose. C'est-à-dire que la mise en scène est un télescope, quoi, qui regarde littéralement une autre planète, et c'est là où effectivement il y a une sorte de réinvention du western aussi par cette façon de créer un espace-temps nouveau, quoi. On rentre vraiment dans un espace-temps nouveau et qui ne nous lâche absolument pas pendant tout le film. Et c'est vrai qu'on reconnaît, alors je parlais des rapports avec Ford, par exemple. Alors c'est vrai qu'on reconnaît des bouts de films de John Ford. Par exemple, au tout début, il y a une citation très très explicite, citation vivante. C'est l'acteur qui s'appelle Woody Strode qui joue le rôle d'un des trois tueurs qui vient attendre Charles Bronson. C'est le noir. En fait, cet acteur est l'acteur principal du Sergent Noir, un des films importants de la fin des années 50 de John Ford. Et cette scène du début, donc, avec le train dans la gare, qui c'était très célèbre, est une citation quasi directe, explicite, d'une séquence du Sergent Noir, donc ce film avec Woody Strode. Donc là, il y a par exemple une citation. Alors évidemment, Henry Fonda est aussi une citation vivante de John Ford.
Et d'ailleurs, je crois que même les deux autres tueurs qu'on voit au début de Il était une fois dans l'Ouest, c'était enfin des visages connus dans le cinéma western. Et le fait qu'ils meurent tous les trois au début, c'est aussi une façon. Enfin, je me souviens par exemple, Leone aurait voulu pour ces trois personnages qui meurent dans les premières minutes du film, il aurait voulu les trois acteurs qui avaient joué dans ces films western, c'est-à-dire Lee Van Cleef, Ellis Wallach et Clint Eastwood. Et puis Clint Eastwood n'a pas accepté parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de mourir dans les 10 premières minutes d'un film. Alors que ça avait un sens très précis, je crois, dans l'esprit de Sergio Leone, c'est-à-dire, bon, finalement, c'était une façon, enfin, j'appelais tout à l'heure, une façon de tuer le western, mais une façon en tout cas de tuer cet univers. Et d'ailleurs, cette idée que vous évoquiez tout à l'heure de débarquer sur une planète inconnue, on la retrouve dans les personnages même, qui sont comme des morts-vivants, enfin, comme des mannequins de cire.
Oui, mais je crois que d'ailleurs, Leone lui-même parle d'un film de fantôme, d'un film d'une danse de mort. Enfin, il le dit très très clairement par rapport à Il était une fois dans l'Ouest, effectivement. Cela dit, ce que vous dites sur le fait que Leone avait voulu faire jouer les trois personnages du début par les trois personnages du Bon, la Brute et le Truand, on peut aussi l'interpréter différemment. On peut aussi l'interpréter comme une manière de dire que, enfin, c'est peut-être le moment où Leone tue aussi sa première période lui-même. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi un moment où Leone passe à autre chose.
The pipes are calling, mm-hmm. And down the mountainside, the sun is gone, and all the roses fall.
qui est marrant aujourd'hui quand on revoit les, quand on revoit une fois dans l'Ouest aussi, c'est que, alors effectivement, on insiste beaucoup sur, on a beaucoup insisté sur justement ce que j'appelle la figure maniériste. Enfin, donc justement, cet étirement du temps, les très gros plans, Dieu en particulier, sur lequel Serge Danet avait une très très belle expression. Il avait écrit que les yeux chez Sergio Leone n'étaient pas faits pour voir, n'étaient pas faits pour regarder, mais pour être regardés. Effectivement, c'est tout à fait ça. Bon, donc ces figures qui sont devenues un peu des clichés maniéristes, sont peut-être aussi moins importants que, d'une certaine manière, une forme de classicisme qu'on retrouve dans l'idée d'une fois dans l'Ouest, quand on le revoit. Ces mouvements amples sur l'espace, bon, là, évidemment, la figure du chemin de fer, qui fait aussi penser à un film de Ford très très vieux qui s'appelle Le Cheval de Fer, qui est un film du muet, par rapport au Bon, la Brute et le Truand, on a quand même le sentiment qu'il y a une sorte de retrouvaille avec le classicisme aussi dans Les Une Fois dans l'Ouest, qui est étrange. Et c'était déjà, alors il y avait, déjà dans Les Une Fois dans Le Bon, la Brute et le Truand, il y avait une sorte de tension comme ça entre justement un cinéma classique et un cinéma, au contraire, complètement déterritorialisé, comme dirait Deleuze et Guattari. Mais c'est-à-dire, c'est un moment très très intéressant dans le film. C'est le moment où, qui est probablement le plus beau moment du film à mon sens, c'est le moment où Eli Wallach et Clint Eastwood rencontrent l'armée, quoi, en fait, au moment qu'ils sont en train de se battre autour d'un pont. Il y a un combat très abstrait, en fait, autour d'un pont, et il y a un personnage de militaire comme ça, totalement désenchanté, qui est très très beau, et qui fait penser un peu à un personnage de Ford. Et à ce moment-là, quand les personnages et Léon lui-même rencontrent la cavalerie, en fait, il peut pas s'empêcher d'une certaine manière de retrouver quelque chose là, très très, mais alors très profondément, du cinéma classique et de Ford en particulier.
Peut-être.
De l'Illinois.
Et toi? Eh ben, moi, je suis avec lui. Qu'est-ce que vous faites dans la zone des combats?
Nous sommes venus nous engager, mon général.
Alors, apprenez d'abord à connaître les grades. Je suis capitaine. Foutez le camp, vous autres! Et allez faire votre testament, c'est peut-être votre dernier jour. Vous pouvez vous engager. Encore faut-il avoir les qualités requises. Voyons ça. Toi, tu feras carrière dans l'infanterie, tu deviendras au moins colonel.
Vous voyez?
J'ai un sacré coup d'œil. Toi, tu m'as tout l'air d'être expert dans le maniement des armes. Et toi, tu as l'arme la plus efficace pour un soldat. C'est l'esprit combatif. Volontaire. Vous tenez à vous engager. Allez, venez. Et vite, dépêchez-vous. Pour l'instant, ça ne tire pas encore. Regardez-moi ces courageux garçons du pont de Langston. Deux assauts par jour.
Deux assauts par jour?
Ouais. Les sudistes considèrent que ce pont est la clé de la victoire. Ce ridicule petit pont. Une chiure de mouche sur les cartes de l'état-major. Et ils ont décidé en haut lieu qu'il fallait prendre cette chiure de mouche. Même si on devait tous y penser. Sinon, la clé de la victoire, eh ben, elle restera au clou. Et si c'était que ça? Mais ce pont, ils le veulent intact. Et les esclavagistes également. On le veut intact et eux aussi. Alors, ça cogne dur, ça tombe comme s'il en pleuvait.
Mais le pont, lui, restera debout. C'est mal, hein, de parler ainsi à deux volontaires. Bah, et ben, entre nous, j'ai fait pire. J'ai fait sauter le pont. Boum! Ouais, là-dedans, je l'ai fait sauter. Ça, c'est un délit très grave. Un de ceux qui vous envoient tout droit en cour martiale. Songez à faire sauter le pont de Langston.
Faites-le donc vraiment.
Ça, ce serait un coup sensationnel, capitaine. C'est bien pourquoi j'y ai pensé. J'ai même mis au point un plan. Non, c'est vrai. Le meilleur moment, c'est après l'attaque, lorsqu'on ramène les blessés. Si on le faisait, on pourrait sauver la vie de centaines d'hommes.
Allez, les gars! Arrêtez vos attaques! Vérifiez vos armes!
Et c'est le camp qui me manque.
Mais je crois que derrière le styliste de génie, il y a aussi un moraliste et quelqu'un qui porte un regard extrêmement cru sur la sauvagerie humaine, quoi, et sur la violence de l'homme.
Nicolas Sada.
C'est le cas dans la plupart des westerns qui ont été à l'époque considérés, je pense pas à juste titre d'ailleurs, comme des parodies. Je crois qu'il y a plus que ça dans l'œuvre de Léon. Et je crois que chez Léon, le maniérisme, c'est une manière de faire avaler au spectateur la pilule, si je puis me permettre l'expression. C'est-à-dire que c'est pour lui la seule manière de faire passer au spectateur la sauvagerie, la violence du monde qu'il dépeint. C'est-à-dire que il a été un des premiers, après d'autres comme Anthony Mann par exemple, à casser véritablement la légende de l'Ouest. Et je crois que c'est quelqu'un qui aussi presque un historien, je crois qu'il a fait beaucoup de recherches pour ses films. On voit par exemple le soin qu'il apporte à l'image, au détail de mise en scène dans un film comme Le Bon, la Brute et le Truand, toute la séquence qui se passe pendant la guerre de Sécession est de ce point de vue très très documenté. Je crois que c'est quelqu'un qui a vu de près les photos de l'époque, les photos des massacres des soldats du Sud et du Nord pendant la guerre de Sécession, qui a été une guerre meurtrière, et qui s'est dit comment je vais pouvoir faire passer au public cette violence du monde que je veux vraiment dépeindre d'une autre manière, cette violence d'un univers et d'une époque que je veux montrer de la façon la plus réaliste qui soit. Eh ben, la seule solution qu'il ait trouvée, c'est finalement le maniérisme, c'est ce style qui fait tout le génie et l'unicité de Sergio Leone. Et là encore, je crois que de sa part, il y a vraiment quelque chose qui est à rattacher au fait qu'il est italien. Parce que quand on regarde par exemple la grande peinture italienne, la peinture de la Renaissance, quand on voit la peinture de Giotto ou d'autres postérieurs à Giotto, qu'on voit ces scènes de bataille, ces moments de violence extrême stylisés par les grands peintres de l'époque, on se dit que finalement, sûrement pas de manière théorique ou consciente, Léon, parce qu'il est italien et parce qu'il regarde cette violence et ce monde, est obligé lui aussi, pour faire passer ce réalisme, il est obligé d'emprunter la civilisation la plus poussée qui soit. Et c'est de ce point de vue qu'il n'est pas complètement dans la logique et dans la tradition du cinéma américain classique, puisqu'il est quand même avant tout un cinéma réaliste. Léon, c'est un peu la rencontre inespérée et assez unique dans l'histoire du cinéma entre un maniérisme et une civilisation poussée à l'extrême et une volonté quand même de montrer le monde et sa violence tel qu'il est.
What are we gonna do with this one, Frank?
Now that you've called me by name,
un autre aspect qui renvoie à cette idée du cinéma de Sergio Leone comme un cinéma de film opéra. Et des cinémas très dramatiques dans le sens de cinéma théâtral, et c'est le montage. Et le montage est très précis, même schématique, mais, et où l'on reconnaît des constantes importantes. Par exemple, la recherche toujours du premier plan.
Et ce qui était complètement nouveau dans le genre western.
Dans le genre western, oui, parce que le genre western a été toujours considéré comme un genre d'action, de mouvement, des longs plans, comme ça. Mais rarement avec des premiers plans. Alors que chez Leone, on trouve souvent des séquences faites uniquement par des détails. Des premiers plans, des yeux surtout, des détails, les poignets, la ceinture, le revolver, célèbre la séquence finale de Le Bon, la Brute et les Truands, où il y a ce truel, on devrait dire, c'est-à-dire un duel à trois. Et c'est la première fois que ça arrive, je crois, dans un western, qu'il y a un duel à trois. Parce que généralement, on trouve le cowboy contre un autre, ou opposé à 2, 4, 5, 1000 si l'on veut, mais tous ennemis. Là, il y a trois ennemis qui sont l'un ennemi à l'autre. Et là, ce truel est composé en séquence, on dirait, en bande dessinée. Je pense souvent à Crepax, à Guido Crepax, qui à l'époque était explosé avec Valentina, qui est une héroïne de la bande dessinée, qui est bien connue, je crois, ici en France aussi, où il y a ces séquences dans la page, ces premiers plans, ces détails de l'œil, de la main, du doigt, comme ça. Et là, c'est une sorte de répétition en bande dessinée de ces détails. Mais chez Leone, c'est différent, parce que alors que chez Crepax, dans la bande dessinée de Crepax, là, il y a une valence un peu onirique, une tentative de faire de l'onirisme à travers la bande dessinée. Et chez Sergio Leone, il y a une insistance de construction qui veut toujours souligner. On arrive à une sorte de dimension emphatique, une sorte de tautologie de l'image, si l'on veut. Je dirais plutôt de leitmotiv de l'image. Comme on trouve ce leitmotiv obsessif de la musique comme ça, on retrouve aussi des obsessions visuelles. Et là, c'est une constante chez Sergio Leone.
C'est un de ces rares cinéastes qu'on peut citer quand on parle du cinéma comme art unique, parce qu'on ne pourrait pas écrire ou mettre en musique ce que Leone fait avec le cinéma. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est unique, qui ne peut pas être représenté par quoi que ce soit d'autre. Et dans le cinéma de Leone, le découpage joue un rôle primordial et permet effectivement, par la minutie du détail, de faire ressentir au spectateur ce qu'est la douleur, ce qu'est la violence, ce qu'est la crasse, ce qu'est la saleté, et ce qui est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la sauvagerie humaine. Je pense à une des séquences les plus fortes du cinéma de Leone, c'est la séquence avec Lee Van Cleef dans le camp des militaires de l'Union, donc des militaires du Nord dans Le Bon, la Brute et le Truand. Il y a ce soldat qui est chargé de torturer les prisonniers sudistes et qui après torture Elie Wallach parce que Lee Van Cleef veut savoir où l'or est caché. Et c'est une séquence d'une grande brutalité. Une grande brutalité, d'une grande violence, qui joue en plus sur un décalage, parce qu'en fond sonore, on entend une chanson traditionnelle américaine, très douce, très pleine de charme, et c'est une manière pour Leone de dire que derrière la chanson de jazz de l'Ouest, derrière le mythe de l'Ouest, derrière cette légende, il y a la violence, et elle parcourt toute l'histoire des États-Unis, et en particulier celle de sa fondation, c'est-à-dire celle de l'histoire de l'Ouest.
Une autre caractéristique de Sergio Leone, et avec les premiers plans, c'est la dilatation. La dilatation est en effet des images, des yeux, des détails comme ça, mais surtout la dilatation du temps. Ces duels durent une éternité. On se rappelle souvent qu'aux premières projections, quand le public n'était pas encore habitué à cette longue attente de la salle, il y avait quelqu'un qui disait « Alors, bougez, bougez !» quand il devait commencer un peu à s'étirer un sur l'autre. Mais là, c'est une dilatation qui a une valeur évidemment expressive. C'est une rhétorique, disons, de l'image. Et c'est surtout, je trouve, une façon de Sergio Leone de se donner, se laisser un bon goût de ce qu'il aime. Je pense souvent qu'il a eu un goût, un désir un peu enfantin en tournant ces scènes-là. Je me rappelle quand on faisait les jeux d'un enfant et qu'on refaisait quelques scènes de western en jouant entre nous, on faisait évidemment toujours la scène clou, la scène du duel. Et je pense que si l'on pouvait tourner un film, on aurait essayé de ne faire jamais terminer la scène du duel parce que c'était le mieux.
Fumier, il aurait pu me tuer. Quand l'as-tu déchargé?
Cette nuit. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Oh.
C'est d'autant plus un créateur de mythes comme tous les grands créateurs de mythes, il a su créer l'idiome, justement, j'y reviens, qui a été celui de son art. Alors là, on a déjà parlé, je crois, de la lenteur, de l'étirement du temps. Et ça, c'est un élément qui est consubstantiel à l'œuvre de Leone, pas simplement parce qu'il trouve là un moyen de représenter comme il l'entend, mais aussi parce qu'il donne à ses personnages le souffle du mythe. Et évidemment, ce qui contribue à réellement mythé ou mythifié le film, c'est la musique d'Ennio Morricone, qui donne une ampleur toute mythique, effectivement, aux représentations de Leone.
Il y a un effet sonore à ce propos sur le silence et les bruits de la nature qui est très beau dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est justement dans le moment où Henri Fonda arrive au début pour tuer toute la famille. On entend les cigales ou les grillons, je ne sais pas, qui ponctuent l'espace et le temps par leur chant régulier. Et tout d'un coup, ça s'arrête et ça signale l'arrivée en fait de Henri Fonda et de ses hommes. Et c'est là où la famille est alertée et ça reprend juste après. Et là, il y a un effet vraiment sonore qui est qu'on ne peut. Bah, c'est-à-dire, on a l'impression aussi sur la question du son chez Leone, enfin en particulier dans Il était une fois dans l'Ouest, que les sens sont supérieurement aiguisés d'une certaine manière. À la fois le sens des personnages et le sens des spectateurs. Mais sur la question de la musique, moi, ce qui me frappait, c'est qu'au fond, il a travaillé beaucoup sur le, je dirais aussi des ritournelles, enfin les ritournelles de Morricone. Et puis il y a aussi son héritage, sa passion pour l'opéra en fait, qui ressurgit aussi dans l'utilisation de la musique, c'est-à-dire un thème par personnage, en particulier dans Il était une fois dans l'Ouest, où chaque personnage a son thème qui vraiment signale son arrivée presque quasi systématiquement pendant tout le film. Et ça, c'est vraiment le motif opératique qui évidemment a aussi à voir avec la façon dont il traite une espèce d'emphase entendue là au sens positif du terme dans le traitement de l'arrivée des personnages dans l'espace, des travelling très très lents. Bon, c'est évidemment, il y a quelque chose de tout à fait opératique dans le style de Léon, mais aussi dans cet usage comme ça de la musique.
Il est quelqu'un qui tournait ses films en ayant la musique sur le plateau. Il contraignait les acteurs, même ceux qui n'étaient pas habitués à ça, à jouer avec la musique. Et en effet, il y avait eu Robert De Niro dans son dernier film. Et il était une fois en Amérique, qui avait été contraint de se doubler après le montage du film, parce que sa voix, on ne l'entendait pas pendant le tournage, parce qu'il y avait cette musique très, très haute.
Oui, parce qu'il disait que cette musique contribuait à créer une atmosphère, et l'atmosphère juste du film, et à faire bouger, à donner donc une cadence au mouvement, et on sait enfin l'importance des rythmes, des gestes,
oui,
des personnages.
Ça. Oui, la musique chez son cinéma a une importance fondamentale et est comme une sorte de dieu de surpersonnage qui bouge les autres. Et il y a cette fonction qu'on pourrait dire dialogique qui se surpose au dialogue, même s'il y a des dialogues qui sont assez importants, c'est pas comme dans le western, on s'amuse souvent en disant que les dialogues dans le western sont superflus. C'est-à-dire on pourrait toujours tourner des westerns muets. Parce qu'en effet, la fonction...
C'est l'action qui compte.
Oui, l'action qui compte. Et on devine toujours ce qu'ils vont dire. En effet, il y a beaucoup de westerns où ils ne disent pas trop. Ils accompagnent seulement les gestes. Là, il y a un jeu dans les dialogues, dans les répliques du cinéma de Leone qui est plus sophistiqué. Il y a des répliques qui sont devenues célèbres. On se les répétait par cœur à l'époque, comme par exemple dans le premier western, la fameuse réplique de John Wells, qui était Jean-Marie Volonté. On s'était donné des pseudonymes. Bob Robertson était Sergio Leone. Et il y avait Morricone qui s'appelait Dan Savio.
Oui, d'ailleurs, jusqu'à la maquilleuse, enfin, tout le monde avait pris dans les titres de tête des noms américains pour faire plus vrai, enfin, pour faire passer le film pour un film américain.
Oui, parce qu'on se serait bien méfié d'un film western tourné en Italie ou fait par des Italiens. On ne pensait pas qu'il serait capable de faire ça, donc on faisait ce jeu-là. Donc, il y a cette réplique où John Wells dit « Quand un homme avec le revolver rencontre un homme avec le fusil, l'homme avec le revolver est un homme mort. » Et il y a beaucoup de répliques comme ça dans ces films.
Oui, ce qui est d'ailleurs dédié par le film lui-même, puisque à la fin du film, l'homme qui meurt, ce n'est pas celui qui a le pistolet, mais c'est lui qui a le fusil.
Oui, oui, en effet. Là, pour un jeu où l'on y va encore. Donc, à propos de la musique, même si le dialogue est assez important, surtout dans des films qui ont un côté plus politique, comme Giù la testa, Il était une fois la révolution, et la musique a vraiment cette fonction de structure des séquences, de structure de l'image, de structure des émotions aussi. C'est vraiment une musique qui n'accompagne pas seulement, mais qui est avec, qui est dedans le personnage. C'est une musique qui exprime, qui parle, si l'on veut.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet. Et essaie de me tuer. Essaie.
Quelques dollars ou plus, il y a le fameux motif de la montre carillon, qui est amplifié par la musique d'orgue, ensuite par la musique de tout l'orchestre, et qui est un peu peut-être le pendant, le correspondant de cette amplification du temps et des actions.
Absolument. Moi, je pense que c'est directement lié à l'image. C'est quand même le seul cinéaste contemporain chez lequel on trouve 10 minutes de film sans dialogue, avec évidemment la musique qui sert à cela. Mais c'est quelque chose d'unique dans le cinéma contemporain, parce que je crois que nous avons désappris de voir, et c'est quelqu'un qui garde toujours la leçon du muet. Il a raconté que quand il était assistant sur le Ben Hur de William Wyler, il devait voir tous les soirs la version de muette de Fred Niblo. Et donc il s'est nourri de ça, et c'est un grand amoureux du cinéma, encore une fois. Mais de l'époque de Niblo, de ses péplums, il parle des quatre cavaliers de l'Apocalypse, justement. C'est un beau film, n'est-ce pas, dans Il était une fois l'Amérique.
L'un des événements du Festival de Cannes a été hier soir la projection de « Il était une fois l'Amérique », un film de Sergio Leone, monstre sacré du cinéma et dans lequel la vedette principale est Robert De Niro. L'histoire est celle d'un gangster qui se penche sur son passé et c'est un film aux nombreux flashbacks et qui dure 3h40. Or précisément, Sergio Leone a quelques problèmes avec ses producteurs qui voudraient d'une part couper son film, déjà réduit d'ailleurs par rapport à la version initiale, et qui voudraient d'autre part le remonter dans l'ordre chronologique. Sergio Leone en a été tellement indigné qu'il en a fait un malaise cardiaque, il est aujourd'hui remis, mais la menace continue de peser sur son film et il espère que sa projection en France finira par convaincre les Américains de le laisser tel qu'il est.
J'avais une idée sur le western. Je pensais enfin que tout le meilleur western, ça vient pour simple comme la chevauchée fantastique ou la diligence. Et je me suis dit que les plus grands écrivains de western, c'était Homero, parce que c'était l'écrivain de plus individualiste qu'on a eu. À partir de là, j'ai dit quand même, je peux construire ma fable, hein, aussi s'il est une fable, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et à travers ça, je vais faire mon cinéma. Ça veut dire à travers le spectacle, à travers le lyrisme, d'arriver à essayer de trouver une certaine vérité. C'est exactement, si je dois faire un paragone entre le parrain que j'ai refusé d'abord, parce que j'étais le premier à être contacté pour le faire, et il était une fois en Amérique, c'est justement ça, le parrain, c'est une chronique portée au spectacle. Le mien, c'est un film fantastique, ça veut dire un spectacle qui essaye de découvrir certaines vérités.
Ça ne nous intéresse pas.
Pourquoi pas, Noodles, c'est un problème? Quoi, on a plein de pognon qui roupillent, autant l'investir, où il est ton putain de problème?
Je peux mettre le parti derrière vous, j'ai beaucoup d'amis très haut placés.
Ne m'intéresse pas aux amis très haut placés, et puis les hommes politiques, je m'en méfie. C'est parce que t'as gardé ta mentalité de peigne cul des rues. Si on t'avait écouté, on serait encore en train de faire les poches des poivreaux pour bouffer.
Pourquoi? T'as besoin de fric.
Me casse pas les couilles, Noodles. Ouais, j'ai besoin de fric, mais de vrai fric.
Et alors, c'est pas du vrai fric, ça? Il y a un beau paquet. Tu veux qu'on partage?
Toi, tu vas garder la puanteur de la rue jusqu'à ce que tu crèves.
J'aime la puanteur de la rue. Ça m'ouvre les poumons. J'adore respirer ça. C'est bon pour ma santé. Et ça me fait bander.
Max, ce type, c'est un poids mort. Un jour ou l'autre, faudra te décider à le foutre au rancard.
Et Maxi, le jour où tu voudras foutre en rancard, préviens-moi. En attendant, je vais en vacances en Floride, j'ai envie d'aller à la plage.
Est-ce que Il était une fois en Amérique vous semble un film à part dans l'œuvre, disons, de Sergio Leone? Ou est-ce que c'est un film qui clôt en quelque sorte ce rêve d'Amérique?
C'est-à-dire qu'il transforme, alors à mon avis, il est le moment où on passe du maniérisme à ce que j'appelais, enfin, à ce que j'appelle, à la suite de Deleuze, le cinéma mental, quoi. En fait, il transforme effectivement ce qui est un travail, finalement, un peu formaliste d'une certaine façon, il le transforme en un travail extraordinairement sophistiqué sur les composantes même, mais alors là, cérébrales, entendu au sens cérébral, du cinéma, quoi. On passe dans une autre dimension. C'est-à-dire que la question de la citation, justement, dont on pouvait un peu parler par rapport à des films antérieurs de Léon, notamment dans Il était une fois dans l'Ouest, elle se pose plus du tout, à mon sens, dans Il était une fois en Amérique. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la citation, et c'est pour ça que je le rapprocherais de Miller's Crossing, des frères Cohen, parce que on est dans le pays du cinéma, si on peut dire, on est dans le cinéma, mais on n'est plus dans un film qui renverrait à un film précis ou à des références spécifiques. C'est-à-dire qu'on est dans un espace effectivement strictement purement mental, purement cérébral. Et là, c'est à mon avis, c'est le film qui fait passer le cinéma américain, une partie du cinéma américain, complètement dans cette dimension-là.
Pourquoi est-ce que vous m'avez invité, Monsieur Bailey?
Cette invitation, tu savais bien que c'était juste un prétexte à la con, non? Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y avait dans cette valise. Les billets et le contrat.
Le contrat ne dit pas de qui il s'agit.
Comment, t'as pas encore deviné?
Vous, Monsieur Bailey. Ça fait bien des années que j'ai pas tenu un revolver. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, même avec des lunettes, et j'ai la main qui tremble. Et je voudrais pas vous manquer, Monsieur Bailey.
Oh, arrête tes conneries, Noodles. Je suis déjà un homme mort. Dès que je mettrai la tête dehors, on me la coupera. Ils attendent que ça. Je n'arriverai même pas devant la commission d'enquête. Ils savent que dès que j'ouvrirai la bouche, je les mettrai tous dans le bain. Ils sont forcés de me supprimer. Voilà pourquoi je t'ai demandé de venir aujourd'hui. Fais-le, Noodles. Tu es la seule personne de qui je peux accepter ça. Mais j'ai réussi à retrouver ta trace. Et maintenant, tu sais pourquoi. Pour payer la dette que j'ai envers toi. Après, t'auras qu'à sortir par là. Va descendre directement dans la rue. Personne ne pourra te voir.
Je sais pas de quoi vous parlez, Monsieur Bailey. Vous ne me devez rien.
Tu avais les yeux tellement pleins de larmes que tu n'as pas vu que ce cadavre carbonisé sur la chaussée, c'était pas moi. Et quelqu'un d'autre. Tu étais trop affolé pour te rendre compte que c'était moi qui avais monté le coup. Et moi, avec les flics et avec l'organisation.
Vous êtes fou.
Noodle, ça tu me l'as déjà dit il y a bien longtemps, rappelle-toi. Mais mon
esprit n'a jamais été aussi clair, aussi lucide que ce jour-là.
Je t'ai volé ta vie. Mais ta vie, je l'ai vécue à ta place. Je t'ai tout pris. Je t'ai pris ton argent. Je t'ai pris ta femme. Tout ce que je t'ai laissé, ça a été 35 ans de remords parce que tu croyais m'avoir tué. Pourquoi tu tires pas?
Je crois que jamais Robert De Niro n'a eu un rôle aussi intéressant. Il y a les possibilités de De Niro. Quand il a 60 ans, c'est quelqu'un, c'est l'acteur proté. On loue toujours le nombre de kilos, qu'il peut prendre à l'intérieur d'un film. On en avait beaucoup parlé dans les films de Scorsese, mais je crois que jamais, de manière aussi fine, aussi subtile, il a été utilisé que dans Était une fois en Amérique. Il a d'abord deux rôles, et non pas simplement un seul. Et quand il joue le rôle du héros à 60 ans, c'est les moments silencieux dont nous parlions tout à l'heure, là, sont portés réellement par une interprétation. Ce qui est une optique qui est quand même radicalement différente du jeu dans les westerns, où là, précisément, il y avait toujours le clin d'œil dans la façon de filmer Clint Eastwood ou Rod Steiger. C'était tout à fait différent.
Vous voyez, monsieur le sénateur, moi aussi j'ai une histoire. Elle est plus simple que la vôtre. Et bien des années de ça, j'avais un ami. Un vrai ami. Et je l'ai dénoncé pour lui sauver la vie. Mais il a été tué. Parce qu'il avait décidé de mourir. C'était une très grande amitié. Ça a mal fini pour lui et pour moi aussi. Bonne nuit, monsieur Bailey. J'espère pour vous que cette enquête tournera court. Ce serait dommage que le travail de toute une vie soit gaspillé.
En fait, il y a quelque chose d'hallucinatoire dans les films de Leon, presque. Il y a une dimension fantastique, enfin. Et dans Était une fois en Amérique, au fond, le film est donné très très explicitement comme la rêverie, enfin l'hallucination d'un fumeur d'opium, puisqu'on voit au début du film Robert De Niro se réfugier dans une fumerie d'opium et au fond n'en pas sortir vraiment pendant tout le film, même si c'est un film qui joue sur plusieurs niveaux de temps avec qui entretiennent entre eux des relations assez complexes. C'est un des films les plus complexes d'ailleurs du cinéma contemporain qu'on ait pu voir effectivement ces 10 ou 20 dernières années. C'est vraiment un film cerveau, c'est-à-dire que on évolue pendant 3h40 dans le cerveau d'un individu et c'est le monde entier qui devient un cerveau d'une certaine manière.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la dimension bergsonienne qu'entretient Léon avec le temps. On a l'impression que c'est le fameux cône de Bergson. Il y a une plaque en haut du cône qui se laisse réellement photographier par les souvenirs et ne sont retenus finalement que les plus importants qui irradient. Et c'est exactement la façon dont cela se déroule dans Il était une fois en Amérique, hein, qui est à mon avis le grand film. Ça veut pas, d'ailleurs, que les conceptions proustiennes et bergsoniennes soient voisines ou cousines, disons, c'est pas du tout une contradiction. Mais on pense bien évidemment à Proust, ça va sans dire. Mais aussi, je pense à une conception que l'on connaît maintenant, qui a souvent été développé et dans le cinéma par Gilles Deleuze, mais qui est typique de « Était une fois en Amérique », la façon dont les maillons de temps se surgissent, sont repris, sont décalés, et c'est à partir chaque fois. Alors il y a évidemment les Madeleines avec la musique et la lunette des toilettes par laquelle il regardait son amour impossible, mais il y a aussi dans l'écriture, plus qu'une écriture proustienne du narrateur, je pense qu'il y a une façon tout à fait bergsonienne de concevoir les nappes de temps qui arrivent et qui se diffusent, encore une fois, avec la puissance du mythe portée par la musique de Morricone. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la musique de « Était une fois en Amérique » qui est peut-être la plus magnifique des musiques de Léon.
Était une fois dans l'Ouest, c'est le dernier, c'est assez contemporain de 2001, d'ici de l'espace, j'insiste. Et c'est probablement les deux derniers films qui ont fait rêver, alors de façon très très puissante, les générations. Je crois que c'est les deux derniers films qui témoignent d'une espèce de puissance mythologique incroyable du cinéma. Je crois qu'après ces deux films-là, je suis pas certain qu'il y ait eu vraiment des films qui aient pu aller aussi loin dans cette dimension-là. Mais je voulais juste dire une chose par rapport à la nature, justement extrêmement étrange, à la fois savante et populaire du cinéma de Léon, c'est que quand on regarde les trois personnes qui ont écrit le sujet d'Il était une fois dans l'Ouest, bon, il y a Léon lui-même, mais il y a Bertolucci d'un côté, donc représentant justement de quelqu'un qui connaît la Nouvelle Vague, qui hérite de la Nouvelle Vague et qui est représentant du cinéma moderne, et Dario Argento de l'autre, qui est un cinéaste, donc lui au contraire, cinéaste fantastique, de l'horreur, et qui appartient vraiment à la...
Un cinéma spectaculaire.
Oui, qui a un vrai maniériste, d'ailleurs, lui aussi de l'horreur. Là, il y a la double nature, l'identité de Léon.
Une autre constante de la construction des films de Sergio Leone, c'est la fin qui est toujours un peu en cercle. Et il soulignait souvent que ce cercle signifiait pour lui un peu la dernière arène de la vie, un peu le moment de la vérité.
Le dernier combat.
Le dernier combat. Et c'est vraiment la confrontation de l'homme en face à soi-même, surtout de l'homme en face à soi-même. Et à ce propos, je me rappelle, ça n'a rien à voir, mais il y a un aspect en commun, je pense, une publicité qu'il avait tournée, très célèbre, pour la Renault, l'auto Renault, qu'il avait tournée à l'intérieur d'une arène où il y a l'auto Reno, qui cherche à se déchaîner. Alors elle prend de la force, et à la fin elle se déchaîne. Et on tourne cette scène-là à l'intérieur d'une arène, c'est une sorte de colisée, mais qui était en Tunisie. C'est une colisée qu'on trouve en Tunisie. Et voilà, c'est un peu la même conception de l'homme qui montre sa force et la montre dans un cadre, dans un cadre existentiel, si l'on veut, et historique aussi, parce que c'est le Colisée, c'est le cercle, il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Donc, tout ça renvoie à quoi? Évidemment, ça renvoie à un cinéma très chargé, très survolté, un cinéma du paradoxe, un cinéma hyperbolique. Et j'ai toujours pensé que le western spaghetti, tel que Leone l'a conçu, l'a exprimé, avance et prépare, contient déjà en soi ce que j'appelle le cinéma fagioli, les haricots western. C'est des spaghetti western, c'est un peu le western classique, disons, italien. Et puis, il y a le côté comique, sa dégénération, on pourrait dire, mais c'est probablement son développement naturel. Et
vous voulez parler là de toutes les séries Trinité
Oui, avec Terence Hill et Bud Spencer. Et je dis haricots western parce que il y a beaucoup de séquences.
C'est moins noble que les spaghettis.
Oui, et puis il y a beaucoup de séquences où l'on mange des haricots. Et surtout, il y a aussi un titre, Anche gli angeli mangiano fagioli. Même les anges mangent des haricots. Je ne sais pas comment on l'a traduit en France. C'est vraiment cette exagération qui part déjà dans le film de Sergio Leone. Déjà dans son premier western, pour une poignée de dollars, la séquence finale où il y a le duel, et qu'il y a Clint Eastwood qui a dit à son ennemi, alors vise au cœur, Ramon, vise au cœur. Et voilà, il tire, et on découvre à la fin qu'il a sur sa poitrine une sorte de métal qui s'était mis pour se défendre des coups de son ennemi qu'il savait déjà qu'il visait toujours au cœur. Et donc là, c'est une blague déjà un peu, bien sûr, dans un contexte un peu dramatique, mais si l'on décale un petit peu, on se trouve déjà en plein cinéma comique. Voilà, donc pour conclure un peu ce discours et pour donner même une petite réponse provisoire à l'idée que le cinéma western de Sergio Leone ne soit pas vraiment ou pas uniquement un cinéma western, on pourrait toucher le thème des thèmes qu'il affronte dans ses films. Et les thèmes sont évidemment souvent des thèmes typiques du western. Mais en effet, ce thème-là est chargé souvent d'autres thèmes ou d'autres significations. Ces films deviennent souvent des métaphores. Et je pense surtout à « Il était une fois la Révolution », où l'on trouve, à travers un film western, à travers un film ambianté dans l'Ouest américain, l'Italie du temps du fascisme. On retrouve même des moments de l'histoire du fascisme quand on tue un homme qui avait essayé de s'échapper, travesti comme ça, et on dit souvent, et c'est vrai, c'est un peu la métaphore du moment où l'on a tué Mussolini. Et là, on dit souvent que, dans ce cas, Leone prend la leçon de quelques autres metteurs en scène très, très importants, tels que Chaplin, par exemple. Il a appris la leçon de Chaplin de faire des films politiques indirects.
« Sergio Leone, C'era una volta il western. Une émission de Francesca Isidori. Avec Claude Aziza, Marc Serrisuelo, Thierry Jousse, Nicolas Sada et Mario Serenellini. Archive INA, Yves Builly. Mixage, Pascal Bénard, Rafi Kevorkian. Réalisation, Josette Collin.
Cette émission a été diffusée la première fois, le 27 avril 1993, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.